Bonjour mes frères et mes sœurs. Y a-t-il une chose dans la vie pour laquelle vous devez vraiment lutter de toute votre force? Quelque chose auquel vous devez réussir absolument? Mais il faut payer le prix. Êtes-vous prêt à payer le prix? Y a-t-il quelque chose comme une bataille à gagner dans vos luttes? Quelque chose comme une victoire à remporter? Pour les athlètes, il s'agit d'une médaille d'or périssable. Mais pour nous autres chrétiens, c'est une médaille tout à fait différente, pour laquelle nous devons aussi lutter de toute notre force. Les Jeux olympiques représentent la gloire des athlètes, nous le savons. L'ultime réussite de tous leurs efforts. Mais ils luttent pour y arriver. Ils s'efforcent, ils travaillent dur pour y parvenir. Pour moi, personnellement, les Jeux olympiques s'appellent l'histoire d'une jeune fille américaine de 16 ans. Elle s'appelait Mary Lou Retton. Elle devait remporter la victoire finale. Elle avait travaillé dur à cet âge déjà, mais elle avait presque déjà, à ce moment-là, avait accompli l'impossible. Mais il fallait encore faire le dernier effort, la bataille ultime, pour ainsi dire, pour remporter la médaille d'or. Personne n'y croyait qu'elle allait y arriver. Personne, sauf elle. Vous savez quoi? Elle a réussi. Elle a réussi avec énormément de surprises, énormément de détermination. Elle était prête à tout donner. Je me rappelle encore à la radio les paroles de son entraîneur qui disait « Vas-y, petite, vas-y. Donne tout ce que tu as, de toute ta force, tu peux y arriver. Vas-y, c'est le moment ou jamais. » Je me rappelle encore ces paroles. Je me rappelle ces paroles parce que j'entendais comme si c'était à moi qui s'adressait. Je voyais le visage de la jeune athlète qui absolument était convaincue qu'elle pourrait. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et elle est arrivée. Elle est arrivée à faire l'impossible. Une tâche insurmontable. Voilà pourquoi je vous pose la question. Êtes-vous prêt à tout donner pour achever une œuvre impossible? Quelque chose d'incroyable, quelque chose qui ne pourrait pas se faire. Avez-vous cette détermination de réussir? Avez-vous le courage de faire tous les efforts nécessaires? Nous avons tous un but dans la vie, un but pour lequel nous avançons. Mais comment avancez-vous? Et quel est ce but en ce qui vous concerne? Comment travaillez-vous? Certes, pour être victorieux dans quoi que ce soit, nous devons faire des efforts surhumains. C'est là où beaucoup de gens échouent, ne veulent pas aller de l'avant. Si c'est une victoire sportive, il faut y travailler. Ou encore une lutte quelconque contre une maladie, il faut avoir la foi, et ainsi de suite. Toute victoire demande des efforts surhumains. Je dis bien surhumains parce que beaucoup de fois, à plusieurs reprises, nous comptons sur les autres. Nous voulons que les autres fassent les efforts et non pas nous-mêmes. Toute victoire est une réussite sur nos faiblesses. Et nous devons y parvenir. Dans le cas de la jeune athlète américaine, Mary Lou Retton, il fallait un effort surhumain, absolument surhumain. Elle était fatiguée, elle ne pouvait plus bouger presque. Mais il fallait encore cette dernière étape, il fallait qu'elle gagne. Voilà pourquoi elle était prête à tout donner. Et son entraîneur, j'entends encore ses paroles, vous savez, « Vas-y petite, vas-y, tu peux le faire. Donne tout ce que tu as, c'est le moment ou jamais. » Ces mots me sont restés dans l'oreille. Souvent, face à une difficulté, je me dis non, il faut que je me donne de tout mon cœur à cette tâche. Il faut que je réussisse, c'est le moment ou jamais. Vous savez, si vous lisez les livres. Si vous n'avez jamais entendu cette histoire, cherchez dans l'Internet ou n'importe où pour voir comment cette victoire a-t-elle vraiment eu lieu. Lorsque toutes les portes semblent fermées devant nous, sachez qu'il y a toujours une porte ouverte quelque part. Et c'est à cette porte-là que vous devez vous adresser. Quel dommage que beaucoup de gens travaillent pour des choses tout à fait physiques, matérielles, pour une victoire physique. Certes, un exploit olympique, c'est formidable, mais ce n'est que pour une médaille d'or physique, médaille d'or qui ne va pas durer longtemps. Nous sommes, nous, en tant que chrétiens, aussi des gens qui courent vers la victoire. Nous avons pour but non pas une médaille d'or périssable, mais une médaille d'or impérissable. Si nous sommes vraiment appelés par Dieu, si nous avons l'espoir d'arriver au but, nous devons faire le même effort que cette petite fille a fait en disant « je peux y arriver, je peux y arriver ». Elle a travaillé dur. Et le moment de la victoire, il fallait voir son visage. De même, le moment de votre victoire, vous devrez voir votre visage. Mais cela demande, je répète, du travail, un travail acharné, aussi déterminé, aussi dur que la conquête d'une médaille d'or lors des Jeux olympiques. Je ne sais pas si vous avez intérêt à des choses pareilles. Je ne sais pas si vous êtes au courant du combat que vous devrez livrer. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils sont nés, ce qu'ils font en ce bas monde. Ils n'ont pas de but dans la vie comme une athlète ou un athlète olympique. Ils ne savent pas pourquoi ils vivent et pourquoi ils meurent. Eh bien, la vie a un but suprême pour lequel nous devons faire tous nos efforts, travailler acharnement, vraiment y mettre notre cœur, parce que cela vaut la peine d'arriver. Nous avons besoin d'une médaille, d'une médaille d'or physique, métallique, ou bien une médaille tout à fait périssable, mais d'une médaille d'or impérissable. Notez à ce propos comment l'apôtre Paul, lui qui a écrit 14 épîtres dans la Bible, lui qui nous montre comment réussir, comment travailler, comment lutter, comment vaincre l'adversaire. Regardez ce qu'il dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte ?» Autrement dit, il faut une victoire. Cette victoire peut être la vôtre si vous faites de tout votre cœur tous les efforts nécessaires pour y arriver. Et Paul continue, courez de manière à le remporter. Voilà, ça c'est la leçon d'aujourd'hui. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, comme cette jeune athlète. Ils font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, dit-il, nous les chrétiens, les véritables chrétiens, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, ajoute Paul, verset 26, 1 Corinthiens 9, il dit, moi donc, je cours non comme l'aventure, à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Oui, il faut traiter durement votre corps, mais de la bonne façon, comme Dieu le dit dans la Bible. Et dit-il, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il est facile de dire aux autres ce qu'il faut faire. Il est facile de donner des conseils, mais il faut que vous puissiez vous-même pratiquer. Il faut que vous puissiez vivre votre religion. Il faut que vous puissiez vous entraîner comme les athlètes s'entraînent. que de force dans les paroles de Paul, que détermination. Chacun de nous, nous devons arriver à ce stade-là. Nous devons combattre comme si c'était notre dernier combat. Nous devons faire l'ultime effort nécessaire. Lisez à ce propos le premier chapitre de l'Apocalypse dans la Bible. Chacune de cette église de Dieu a reçu les recommandations du Christ, ce qu'elle devrait faire. Lisez cela, ça vaut la peine. Par exemple, j'en prends une, Apocalypse 3, versets 10 à 11, des instructions qui nous donnent la force d'arriver. Nous devons faire chacun de nous, dans l'Église de Dieu, tout ce que nous pouvons, non seulement pour arriver nous-mêmes, mais aussi pour aider les autres autour de nous d'y parvenir. C'est ça, le but de la vie. Nous lisons dans Apocalypse, donc, chapitre 3, versets 10 à 11, et je cite, « Parce que, c'est le Christ qui dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance la crée. Lorsque vous avez la persévérance, vous n'abandonnez pas. Cet jeune athlète n'a pas abandonné, et ne pouvait plus presque bouger, et pourtant, elle a gagné la victoire finale. » Il dit, « Je garderai aussi, à l'heure de la tentation, c'est Dieu qui parle, qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Nous aurons en ce moment des jours difficiles. Nous aurons des moments où nous ne pourrons plus presque durer. Nous serons prêts à abandonner, mais il ne faut jamais abandonner. Toujours aller de l'avant avec force, avec détermination, avec courage, en disant non, je ne vais pas échouer. Au contraire, je vais réussir. » Parce que le Christ a dit que dans l'Apocalypse 3, qu'il y aura des jours difficiles pour éprouver les habitants de la terre. Ça, c'est à l'avenir, c'est pour bientôt. Verset 11, le Christ a dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Oui, il y a une couronne. Il y a une couronne impérissable. Nous devons faire tout notre effort, tous nos efforts pour pouvoir retenir cette couronne. Alors, mes frères, alors, mes sœurs, quels sont les efforts que vous faites pour vaincre vos faiblesses? En tant que chrétien, que faites-vous pour vous approcher de Dieu? Qu'est-ce que vous mettez en premier lieu dans votre vie? Si vous avez des faiblesses, et vous en avez comme nous tous, demandez à Dieu de vous les montrer. Demandez à Dieu de vous aider à les vaincre. Mais faites votre part, faites les efforts nécessaires, ne comptez pas sur les autres. Savez-vous qu'aucune difficulté, quelle qu'elle soit, n'est infranchissable? Non, ce n'est pas. Toutes difficultés peuvent être vaincues si vous faites votre part. Si vous prenez le temps de vous examiner, de voir comment vous pouvez vraiment réussir. Si vos yeux sont sur le Christ, vous pourrez y arriver. Ça ne sera pas facile. Comme l'athlète, vous devez faire l'impossible presque, mais c'est le Christ qui vous donne les efforts nécessaires. C'est le Christ qui vous donne la réussite. Aucune difficulté dans votre vie, quelle qu'elle soit, n'est insurmontable avec l'aide de Dieu. Prenez la vie au sérieux. Prenez votre appel au sein du Christ, au sein de l'Église, au sérieux. Le Christ vous montre, dans la Bible, les responsabilités qu'incombent à un chrétien, un véritable chrétien. Il nous donne à nous tous le Saint-Esprit, nous qui sommes baptisés, nous qui avons reçu, en effet, le Saint-Esprit, la façon de travailler, le chemin, il nous montre pour y arriver, pour y réussir. Autrement dit, nous n'avons pas d'excuses pour échouer. Non, nous n'avons pas d'excuses pour échouer. Nous pouvons trouver des excuses, chercher des excuses, ça c'est autre chose. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu, si vous êtes totalement conquis par Dieu, vous pouvez dire que vous pouvez y arriver grâce à Dieu, par la force que Dieu vous donne et par les efforts que vous faites, des efforts qui sont nécessaires, certes, mais c'est Dieu qui vous donne le courage, c'est Dieu qui vous donne les efforts. La petite athlète, je répète, elle n'en pouvait plus, mais elle entendait la voix de son entraîneur, « Vas-y, petite, tu peux y arriver. Dans tout ce que tu as, fais tous les efforts possibles, tu peux y arriver. » Le Christ, notre chef, notre entraîneur, nous aime. Il veut tout autant que cet athlète et l'entraîneur que nous arrivions au but. Mais à tout moment, nous devons, en tant que chrétiens, nous dire « Allons-y, allons-y. » C'est le moment ou jamais. Et c'est vrai, ne sous-estimez pas les minutes. Chaque minute compte. Chaque minute est indispensable dans notre victoire. Nous ne pouvons pas vraiment nous lâcher. L'apôtre Paul, qui a écrit ces paroles en disant que nous devons y arriver dans une victoire, a beaucoup souffert. Il nous dit dans la Bible, dans les 14 épîtres qu'il a écrites, toutes les choses dont nous avons besoin pour arriver, pour réussir. Mais ce n'est pas tout de dire des choses. L'apôtre lui-même a vraiment vécu ce qu'il nous a dit. Il a souffert, je peux dire que presque plus que n'importe quel chrétien. Vous ne croyez pas? Laissez-moi vous citer 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 24 à 29. Écoutez bien, ce sont des paroles véridiques. L'apôtre Paul qui nous dit que nous devons lutter pour arriver, regardez voir comment lui-même a souffert, comment lui-même a passé par des expériences difficiles. Il dit 5 fois, dit-il, 2 Corinthiens 11, 24 à 29. 5 fois, dit-il, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Savez-vous ce que cela signifie? 40 coups, c'était là, c'était le coup final. Donc, 40 coups moins 1, vous êtes presque mort. Il dit 3 fois, dit-il, j'étais battu de verge. Une fois, dit-il, j'étais lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Au verset 26, il dit, fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Vous allez voir, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il ajoute au verset 27, « J'étais dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid, à la nudité. » Et sans parler, dit-il, d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Voyez-vous, l'apôtre Paul n'a pas abandonné. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner, parce que c'était le Christ de son esprit, l'Esprit des saints, qui a donné à Paul toute la force nécessaire, mais Paul devait faire lui-même les efforts. Les efforts dont il avait besoin pour pouvoir réussir. Quelle vie que l'apôtre Paul a eue. Quel exemple qu'il nous donne. Quelle souffrance qu'il a endurée. Durant chacune de ses expériences, il devait lutter comme si c'était le dernier moment. Le moment où jamais il fallait qu'il donne tout ce qu'il avait. Il devait travailler dur. Et il nous donne le bon exemple. Il a laissé le Saint-Esprit en lui, lui donner la force dont il avait besoin. Et il nous dit la même chose, il nous dit, écoutez, laissez le Saint-Esprit en vous, travailler en vous, lutter pour vous. Vous aidez à arriver au but sans jamais baisser les bras. Savez-vous comment et pourquoi l'apôtre Paul a pu réussir? Il a il avait la même force que vous et moi si vous êtes baptisé, si vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous avez la détermination d'arriver jusqu'au bout dans votre vie chrétienne. Notez ce qui est écrit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. L'apôtre Paul dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de véritable amour et de sagesse. » Faisons preuve de sagesse dans tout ce que nous faisons, de force, d'amour, de la façon divine et non pas de la façon humaine. C'est cette force-là, c'est le même Saint-Esprit que Dieu vous a donné lors de votre baptême, si vous êtes réellement baptisé et que vous avez reçu l'Esprit de Dieu par l'imposition des mains. C'est cette force dont l'apôtre Paul parle dans toutes ses épîtres. Et il a écrit 14. Nous disons dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8, Paul a écrit, « Car pour moi, dit-il, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » Voyez-vous, nous savons tous, nous ne savons pas quand nous mourrons. Le moment de départ de chacun de nous approche. Nous ne savons pas, Dieu seul le sait. Mais nous devons lutter comme si c'était notre dernière lutte. C'est le moment où jamais donnons tout, tout ce que nous pouvons donner, de toutes nos forces. Paul dit, j'ai combattu, 2 Timothée 4, versets 6, 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, dit-il, la couronne de justice m'est réservée. Cette couronne de justice, c'est l'ultime gloire, l'ultime récompense, l'ultime médaille d'or impérissable. Le Seigneur le juste, juge, dit-il, me le donnera, non pas seulement à moi, dit-il, mais encore à tous ceux, et ça couvre vous et moi, à tous ceux, dit-il, qui auront aimé son avènement. Y croyez-vous, mes frères et mes sœurs, il est grand temps que nous autres chrétiens, au sein de l'Église de Dieu, nous puissions ouvrir les yeux et comprendre. Nous vivons dans un monde extrêmement détraqué aujourd'hui. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, de la force divine. Nous avons besoin de tout encouragement possible. Mais pour cela, nous devons vraiment savoir que nous ne sommes pas seuls. Qu'il y a toujours quelqu'un derrière nous. Non pas un entraîneur humain, mais le Christ qui dit, « Vas-y, tu peux le faire. Je te donne la force. » Tout dépend dans notre vie du but que nous avons. Quel est votre but dans la vie? Vous avez des idées, c'est bon, mais quel est votre but ultime? Que voulez-vous accomplir en ce bon monde? Gagner beaucoup d'argent, c'est possible. Beaucoup l'ont fait. Réussir dans une famille, c'est possible. Beaucoup l'ont fait. Mais ça, ce n'est pas le but ultime. Votre but ultime doit être plus que cela. Ne travaillez pas dur, si dur que ça, pour un but périssable. Mais travaillez pour un but impérissable. C'est ainsi seulement que vous arriverez à conquérir vous-même, ainsi que votre vie dans la vie. Bref, si je devais vous dire, tout simplement en tant qu'ami, quel est votre but? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Vous pouvez avoir toutes sortes d'excuses pour me dire, écoutez, je n'ai pas grand-chose. Je dirais, amen. Moi non plus, je n'ai pas grand-chose. Personne n'a grand-chose. Mais quel est votre but? Votre but dans la vie? Ce n'est pas de vous que cela dépend, mais de Dieu. Ce n'est pas vous qui le fixez, mais c'est le Christ. Le Christ vous dit dans la Bible que vous êtes né pour arriver un jour à un but impérissable, pour gagner une médaille d'or impérissable, la vie éternelle. Voilà votre but. Et pour cela, vous devez chercher dans la Bible quelles sont les conditions et que faire, comment pour y approcher. En effet, comment devez-vous agir, vous comporter pour accomplir ce but? Je répète, de quelle médaille d'or dans la vie, dans votre vie, travaillez-vous? Dans Matthieu chapitre 13, verset 14 à 14, dans Matthieu chapitre 13, verset 44 à 46, nous lisons, le royaume des cieux, voilà le but. Ça, c'est votre but, le royaume des cieux. C'est pour cela que vous devez travailler de tout votre cœur. Le royaume des cieux, dit la Bible, est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Eh oui, on ne peut pas voir, mais on sait que ça existe. Et le Christ nous explique comment y parvenir. Un trésor caché dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Voilà le prix. Il n'y a pas d'exception. Vous devez donner tout ce que vous avez, si nécessaire, pour acheter ce champ où vous avez ce trésor caché. Êtes-vous prêt à faire cela? Quelles sont vos conditions? Quelles sont vos excuses? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous direz, je ne peux pas, ce n'est pas possible? Verset 45, le Christ ajoute, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Voyez-vous, les perles sont vraiment chères, sont vraiment valables, d'accord? Donc, vous cherchez de belles perles, il en trouve une perle de grand prix. C'est votre cas, c'est mon cas. Il est allé vendre tout ce qu'il avait, tout. Ce n'est pas une partie. Lorsque vous cachez une partie pour vous-même ou bien pour une autre raison, ce n'est pas tout. Avec le Christ, c'est tout ou rien. La victoire totale, la victoire complète demande tous vos efforts, demande toute votre détermination. Donc, il achète parce qu'il a tout vendu. Êtes-vous prêt à faire cela? Voyez-vous, la vie n'est pas facile en quelque sorte et pourtant, elle est facile. Elle est facile parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est le Christ qui fait. Si nous laissons l'adversaire, Satan le diable, nous détruire, il aura une tâche facile. Mais nous aurons une tâche très difficile si nous comptons sur nous-mêmes et non pas sur Dieu. Le Christ nous donnera toute la force dont nous avons besoin. Il empêchera Satan de nous nuire, de nous décourager, de nous faire détourner de lui, c'est-à-dire du Christ. Donnez tout ce que vous pouvez, mes amis, dans votre vie, à tout moment, dans tout ce que vous faites pour arriver au but, pour remporter la victoire ultérieure, c'est-à-dire la médaille impérissable. Nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 18, Paul dit, lui qui a souffert, lui qui a passé par là, il sait ce qu'il dit. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent, voyez-vous, il sait, il a été là, il a fait l'expérience. Les souffrances du temps présent, dit-il, ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est comme l'histoire de cette jeune athlète. Elle a souffert, elle a vraiment travaillé dur, la gloire à venir. Pour elle, c'était une médaille d'or périssable. Pour vous et pour moi, c'est une médaille d'or impérissable. Il dit, la gloire à venir qui va révéler pour nous. Et ensuite, une fois qu'il a passé par là, Paul écrit au verset 31, Romains 8, regardez voir cette force. Dans ses paroles, que dirons-nous donc, dit-il, à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Répétez-vous vous-même, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Voilà la phrase dont vous avez besoin, vraiment besoin de mettre en pratique. À tout moment, vous direz, si Dieu est avec moi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est ça. Et vraiment, croyez à ce que vous dites là. Lui, Dieu, Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quand le Christ viendra, nous le savons, et avec le Christ viendra la victoire, la récompense. Soyons donc prêts à recevoir cette récompense, à recevoir le Christ, à vraiment le rencontrer sur un terme qui nous permettra de mieux comprendre, de mieux apprécier tout ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Nous sommes, voyez-vous, les élus, c'est-à-dire ce que Dieu a appelé aujourd'hui. Un jour, Dieu appellera tout le monde et que tous comprendront ce que je vous dis maintenant. Vos membres de l'Église, vous comprenez cela et c'est bien. Mais un jour, le monde entier comprendra. Ceux qui sont des criminels aujourd'hui et qui sont revenus à la vie comprendront. Voilà pourquoi Paul écrit, « Qui les accusera, les élus ?» Qui? C'est Dieu qui justifie. Et c'est vrai. C'est Dieu qui nous justifie. Allons, marchons dans la voie que Dieu a tracée devant nous. Qui les condamnera, les élus? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il y a des phrases dans la Bible, vous savez, que parfois ça sort. Ça saute aux yeux. Ici, c'en est une. Le Christ, notre Créateur, intercède pour moi. Est-ce que je peux vraiment comprendre? Je peux croire. C'est un miracle, c'est plus qu'un miracle. Donc si le Christ intercède pour moi, j'ai un avocat, j'ai quelqu'un, un entraîneur, qui me dit, vas-y, tu peux y arriver, puisque la victoire est entre mes mains par la force du Christ. Et Paul écrit, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Sera-ce la tribulation ? Nous en avons tous. Ou l'angoisse ? Nous en avons tous. La persécution ? Nous en avons. La faim, la nudité, le péril, l'épée, ce sont des choses qui arrivent en ce bas monde. C'est un monde où ces choses sont nécessaires pour que nous puissions vaincre, arriver au but. » Et dit, selon qu'il est écrit, verset 36, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Si nous sommes chrétiens, nous serons persécutés. Si nous sommes vraiment chrétiens à force d'obéir au Christ, nous serons persécutés. Nous aurons des moments difficiles. Seulement, dit-il, qu'on nous regarde comme des brebis destiné à la boucherie, mais dans toutes ces choses, verset 7, 37, notez encore une fois, dans toutes ces choses, non pas dans une partie de ces choses, dans toutes ces choses que je viens de mentionner ici, nous sommes plus que vainqueurs, plus que cette victoire à la médaille d'or périssable, plus que vainqueurs. Comment? Pourquoi? Par qui? Par celui qui nous a aimés, c'est-à-dire le Christ. Voyez-vous, si vous avez cette assurance, vous avez la victoire déjà en vue. Car, dit-il, au verset 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, autrement dit, il compte tout, ni aucune autre créature, y compris Satan, le diable et ses démons, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Comprenez-vous la force dans ces paroles? Regardez, vous pouvez vous voir ici la clé de la victoire. C'est ici, voilà votre victoire, voilà votre victoire. Autrement dit, avec cette détermination, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas du tout échouer. La réussite est entre vos mains. Ce sont des paroles, je vous dis, véridiques. Dieu est votre Père. Dieu, c'est votre entraîneur en même temps. Le Christ vous donne toute la force, tout l'espoir dont vous avez besoin pour y parvenir. À tout moment, rappelez-vous, il vous dit, « Mon enfant, donne tout ce que tu as. » C'est le moment où jamais tu peux réussir. si nous avons cette détermination, cette compréhension, cet espoir, cette force, nous arriverons et nous aurons nous-mêmes ce jour de gloire où nous aurons la récompense ultime, la récompense éternelle, la récompense spirituelle, c'est-à-dire la vie éternelle. Rappelez-vous toujours, le Christ, votre trentenaire, vous dit, c'est le moment ou jamais. Nous vivons aujourd'hui dans un monde détraqué. C'est un monde où nous avons toutes sortes de difficultés. Nous avons des guerres et des bruits de guerre. Et le Christ en avait parlé. Nous avons des maladies et ces maladies se multiplient. De plus en plus, nous avons des excuses pour baisser les bras. Mais nous ne devons jamais baisser les bras. Car le Christ est notre chef. Car le Christ est notre créateur. Car le Christ a toute la puissance nécessaire pour que nous puissions, avec son aide, arriver au but. Je répète, lisez Matthieu 24. Lorsque le Christ parle de son retour, de la prophétie des temps derniers, juste avant le retour du Christ. Le Christ parle de pauvreté. Le Christ parle de guerre, de maladie, de souffrance. Tout ça est dans les pages de l'histoire. C'est devant nous, nous savons, mais nous ne devons pas être découragés. Car cette lutte que le Christ connaît n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Et le Christ ne peut jamais faiblir, jamais échouer, parce qu'il est la puissance suprême. Ayez les regards, ayez les yeux sur le Christ. Quelles que soient vos circonstances, que vous soyez malade ou non, seul ou non, souffrant ou non, que vous soyez âgé ou non, autrement dit, quelles que soient vos excuses pour ne pas faire l'effort nécessaire, dites-vous vous-même, le Christ est mon sauveur. Il veut que j'arrive. Il me donne toute la force pour y arriver. Certes, nous avons en ce monde Satan et ses démons. Certes, le Christ le sait. Mais le Christ nous a avertis, il dit, « J'ai combattu, j'ai vaincu. » Ayez les yeux sur le Christ et non pas sur Satan. Ne craignez pas Satan. Ne craignez pas les démons. Ne craignez pas des individus qui sont peut-être plus forts que vous, qui pourraient à la rigueur vous faire du tort. Non, ayez les yeux sur le Christ et vous aurez votre médaille. Médaille d'or impérissable, entends-tu-t-il. Apocalypse, chapitre 12, verset 12, nous lisons, c'est le Christ qui parle, c'est pourquoi, dit-il, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Vous voyez, autrement dit, Dieu nous avertit ce qui va se passer, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Aujourd'hui, le diable sait qu'il a très peu de temps. Regardez autour de vous, regardez tous les événements, regardez la façon humaine de raisonner. C'est tout à fait anormal, je dirais. C'est détraqué, d'accord? Car le diable est en rage. Il sait qu'il a peu de temps. Mais nous ne devons pas nous faiblir. Nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas avoir peur du diable. Ayez les yeux sur le Christ et le diable disparaîtra. Ne craignez rien. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 12, nous lisons encore. C'est pourquoi dit-il, réjouissez-vous, cieux, et ceux qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Autrement dit, les choses qui sont devant nous, qui peuvent nous effrayer, mais elles ne devraient pas nous effrayer. Car le diable est descendu, dit-il, vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est ce que du reste l'apôtre Jean a écrit à l'époque du Christ. Ces versets s'appliquent principalement aujourd'hui. Ça s'appliquait à l'époque. Ça s'appliquait auparavant, ça s'applique toujours, mais surtout aujourd'hui parce que nous sommes tout près du retour du Christ. Si Dieu est votre Père, si le Christ est votre Maître, votre Seigneur, ne craignez pas le diable. Ne craignez rien, mais ayez cette détermination de réussir. Sachez que c'est Dieu qui combat, ce n'est pas vous. Et pourtant, vous devez faire les efforts comme si vous combattiez. Et oui, autrement dit, vous devez lutter comme si c'est vous qui réussissez, mais c'est le Christ qui combat pour vous. C'est lui qui réussit. Et il y a toujours la force d'avoir foi en lui. Ayez les yeux sur lui. Ce faisant, vous aurez la garantie absolue de réussir, d'arriver au but. Notez encore ce que l'apôtre Jacques a écrit, je cite, Jacques 4, 5 à 8. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. En effet, si nous avons reçu le Saint-Esprit après notre repentir, après notre baptême, donc nous avons en nous l'Esprit de Dieu que Dieu chérit avec jalousie. Il accorde, au contraire, dit-il, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dans tout ce que vous faites dans votre vie, soyez humbles. Ayez les yeux sur le Christ. Ayez les yeux sur Dieu. Sachez qu'il vous aime et fera tout pour que vous puissiez arriver au but. Et Jacques ajoute, soumettez-vous, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà encore une autre phrase secrète, verset puissant. Le diable fuira loin de vous. Lui qui paraît tellement fort fuira loin de nous si nous avons le Christ en tant que notre partenaire, en tant que notre entraîneur, en tant que notre sauveur. Verset 8, Jacques 4, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est une promesse. Voyez-vous, la Bible ne ment pas, Dieu ne ment pas. Tout ce que vous lisez dans la Bible, c'est la vérité. Alors Dieu vous dit ici avec force que si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. Y croyez-vous? Ce sont les moments difficiles dans votre vie qui vous abattent en quelque sorte. C'est à ce moment-là que vous devez dire, si le Christ est avec moi, qui peut être contre moi? Et dites ça avec force, dites ça avec conviction. Sachez que c'est vrai ce que vous dites. Ce faisant, vous ferez preuve du courage de ceux qui réussissent dans la vie. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, verset 7, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, verset 8, voyez-vous, ce sont simples, des paroles simples mais véridiques. Alors, croyez-y, allez avec cette force. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Voici des instructions indispensables pour arriver au but, pour arriver le courage, pour résister face à l'adversité. Les jours passent vite, mes amis. Nous avançons de plus en plus vers le temps où nous aurons des difficultés incroyables, impossibles à imaginer dans la vie. Il y aura des jours très difficiles, des jours de famine, des jours de détresse, des guerres, des malheurs, des événements impossibles à supporter. Nous sommes aujourd'hui, vous savez, dans un monde extrêmement difficile. C'est un monde qui avance à grands pas vers les grandes inventions. Nous avons inventé tellement de choses. Nous pouvons voir des choses aujourd'hui que, auparavant, il y a encore 100 ans, on ne pouvait même pas imaginer. Un enfant aujourd'hui n'a aucune difficulté à comprendre ce que c'est que le téléphone. Nous autres, nous ne savions pas ce que le téléphone. Un enfant aujourd'hui n'a aucune difficulté à comprendre ce que c'est que la télévision, la radio. Mais voyez-vous, à l'époque, les gens ne savaient pas. Moi-même, je ne savais pas ce que c'est que la télévision lorsque j'étais jeune. Mais en même temps, les difficultés croissent, les difficultés grandissent. Nous avons de plus en plus de difficultés, de plus en plus de maladies. Jamais par le passé, je répète, nous avons eu autant de gens qui souffrent en ce moment. Jamais par le passé, autant de guerres qui ont fait des millions et des millions de victimes. Jamais par le passé, nous avons eu des maladies qui, on ne sait pas d'où elles viennent. Et nous ne savons pas comment les vaincre. Plus nous inventons des médicaments, plus nous sommes malades. Et cela va continuer. Alors, où en sommes-nous? Devons-nous nous décourager? Non, au contraire. Du reste, le sermon entier d'aujourd'hui, c'est vous donner le courage dont vous avez besoin pour arriver au but pour lequel nous sommes nés, c'est-à-dire la victoire finale, la médaille d'or impérissable. Dans Jean chapitre 16, versets 32 à 33, le Christ a dit, « Voici l'heure. Elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Et c'est le moment, maintenant nous pouvons voir, où vous me laisserez seul. Hélas, cela va arriver. Certains d'entre nous, les chrétiens, nous allons nous détourner du Christ. Et le Christ nous met en garde. Il dit, vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Il était sur cette terre lorsqu'il disait cela. Autrement dit, ce qu'il dit, c'est ce que nous allons dire, ou nous disons maintenant, mais le fait est que nous ne sommes jamais seuls. Il dit, verset 33, Jean 16, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. » Voilà encore une autre phrase clé, une autre phrase nécessaire à la réussite. Ayez la paix en moi, en Christ. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce sont des choses, voyez-vous, des phrases, des encouragements indispensables pour réussir, pour parvenir à la médaille d'or impérissable. Rappelez-vous l'expérience de Job. J'ai souvent cité Job dans mes sermons. Job était un homme fidèle à Dieu. Il avait réussi dans sa vie. Il avait tout ce qu'il fallait. Il menait une vie heureuse, une famille heureuse, des enfants, et tout en abondance. Voilà qu'un jour, Satan le frappe, avec la permission divine. Dieu a demandé à Satan, écoute, regarde voir Job, comment il se comporte. Alors Satan lui a dit, écoute, oui, mais parce que tu l'as béni. Alors Dieu a permis à Satan de tenter Job pour montrer que non, lorsque nous sommes proches de Dieu, lorsque nous avons les yeux sur le Christ, ce n'est pas une question d'être béni ou non. Nous obéissons à Dieu car nous avons foi en lui. Regardez ce qui est écrit dans Job chapitre 1, versets 1 à 5. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs trois sœurs à manger, à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job, il allait voir cette attitude, appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Parce qu'il voulait absolument être sûr que ce qu'ils faisaient tous était juste. Il disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Regardez voir cette attitude dont nous avons besoin pour réussir dans tout ce que nous faisons dans la vie. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Mais Satan était jaloux. Satan a demandé à Dieu, laisse-moi encore agir un peu plus loin, le faire souffrir encore. Dieu le lui a permis, à condition de ne pas prendre la vie de Job. Et à un certain moment, ça va même. Disait Job, écoute, de ton droit de Dieu, Dieu t'a abandonné. Non, Job était sincère. Job savait ce qu'il fallait. Il avait les yeux sur la victoire. Il a dit, et je cite Job, verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. » Ensuite, il ajoute, vous allez voir cette phrase à nouveau, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. » C'est Dieu qui fait tout. « Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et la Bible ajoute, verset 22, « En tout cela, Job ne pécha point, n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Là encore, une autre leçon pour nous tous. Quelles que soient les circonstances, n'attribuons rien d'injuste à Dieu. Dieu a toujours raison. La faute est toujours de notre côté. Si vous êtes convaincu de cette vérité élémentaire, vous serez toujours candidat à la victoire éternelle. Dans tout ce qui se passait dans la vie de Job, il a fait, il a posé des questions, mais il n'a jamais douté de Dieu. C'est cette attitude dont nous devons, c'est cette attitude que nous devons avoir, nous tous, quelles que soient les circonstances. Ce faisant, nous serons toujours sur le chemin de la victoire, sur la voie de réussite, sur l'impossible que nous ne pourrions jamais accomplir sans l'aide divine. Voyez-vous, lorsque vous regardez autour de vous, vous pouvez voir toutes sortes de choses. Job ne comprenait pas ce qui se passait, mais en fin de compte, il a compris et il a été plus béni qu'auparavant. Il était déjà riche, il avait tout ce qu'il fallait, mais il a tout regagné. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, Job n'a pas eu la vie facile, mais il n'a pas abandonné la foi en Dieu. Il a toujours dit, Dieu sait, Dieu peut, Dieu me bénira. Il est normal, il est humain d'avoir des doutes, mais ces doutes doivent être écrasés, pour ainsi dire, par la force que nous donnent les Écritures. Demandez à Dieu, à chaque moment, qu'est-ce que c'est que je peux faire pour mieux te comprendre. Il y a certaines choses, beaucoup de choses, je suis sûr, qui arrivent dans votre vie, vous ne comprenez pas pourquoi. Il est possible que la plupart du temps, c'est votre faute. C'est nous qui créons les circonstances qui nous rendent malheureux. Chaque fois que nous transgressons les lois divines, nous nous rendons malheureux. Donc, les souffrances parviennent de notre transgression des lois divines. Mais à part cela, qu'est-ce que c'est qui vous fait vous douter de Dieu? On ne peut pas trouver. Ce sont toujours les arguments des autres ou bien les excuses de Satan, de diable, de Satan, de diable. Ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce sont des choses que nous acquérons de par notre peur, de par nos doutes, de par des circonstances même, mais si nous avions les yeux sur le Christ à tout moment, tous ces doutes disparaîtraient, toutes ces craintes s'élimineraient. Voilà ce qui est important. Nous devons aller de l'avant avec force, avec courage, sans jamais nous décourager, sans jamais baisser les bras. Voyez-vous, lorsque nous avons les yeux sur le Christ, ça ne veut pas dire que nous sommes dispensés de toutes les difficultés de la vie, non. Les difficultés parfois sont nécessaires pour nous aider à avancer, pour nous aider à apprendre, pour nous aider à conquérir, pour nous aider à pouvoir vraiment nous efforcer à devenir meilleurs chrétiens. Faites sa volonté, faites le désir du Christ. Respectez ses commandements. Lorsque vous êtes tout à fait abattu, vous n'avez plus rien à espérer dans la vie, dites-le, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Entendez ces paroles du Christ qui vous dira, tu n'es pas seul, je suis avec toi, je suis à tes côtés. Avec la force du Christ, vous arriverez toujours. C'est ça qui compte. Voyez-vous, dans la vie de Job, Job a vraiment passé par des moments difficiles. Job a vraiment fait l'expérience de ce que c'est d'être riche, d'être grand, et en même temps de comprendre ce que c'est que tout perdre. Mais vous savez quoi? Il n'a pas tout perdu. En fin de compte, avec tout ce qu'il a vu dans sa vie, et lorsque Dieu lui a permis d'ouvrir les yeux, voyez ce qu'il a dit. Et je lis Job 42, versets 3 à 6. Il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Voyez-vous, donc réfléchissez à cette phrase. Mais maintenant, dit-il, mon œil t'a vu. Entendre, ce n'est rien. Il faut encore voir Dieu. Il faut voir le Christ autour de vous. Car le Christ est toujours autour de vous. Il dit, mon oreille t'avait entendu, mais maintenant mon œil t'a vu. Et c'est pourquoi, dit-il, je me condamne. Je me repens sur la poussière et sur la cendre. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, dans la vie, nous avons tous des difficultés, des souffrances, des épreuves. Dans la vie, nous avons toujours des circonstances où nous nous demanderons pourquoi Dieu ne réagit pas. À ce moment-là, prenez le temps de lire les psaumes. Par exemple, laissez-moi lire quelques versets du psaume 37. Vous savez, je voudrais même un jour faire un sermon sur ces versets-là, parce que ce sont des versets fantastiques. Psaume 37, verset 1. David dit, « Ne t'irrite pas, dit-il, contre le méchant. N'envie pas ceux qui font le mal. » Voilà. Voilà comment arriver au but. Laissez les gens tranquilles. Autrement dit, vous faites votre part, vous réussirez. Car ils sont fauchés, aussi vite que l'herbe. C'est le sort de tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes ici, demain, nous ne sommes pas. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Verset 4, psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices. Voilà encore des conseils fantastiques. Faites de l'Éternel vos délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce possible? Oui. Pouvons-nous croire? Oui. Dieu nous donnera ce que notre cœur désire, à condition que ce que nous désirons soit conforme à sa volonté, que ce soit pour le bien des autres et non pas pour leur malheur. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas toujours, n'ayez pas toujours les yeux tournés vers vous-même. Si vous voyez quelqu'un qui a besoin de vous, aidez-le. Même si c'est quelqu'un qui ne vous aime peut-être pas. Je continue. Verset 4, psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est une promesse. Une promesse, on ne peut pas en douter. Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. Verset 5, recommande ton sort à l'Éternel. Voyez-vous, laissez Dieu faire. Laissez Dieu agir, laissez Dieu vous inspirer, laissez Dieu vous guider. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et quoi? Il agira. Oui, Dieu agira. Ce sont des paroles, comment dirais-je, impossibles à croire. Et pourtant, c'est Dieu qui dit, donc nous devons les croire. Dieu ne ment pas. Dieu veut que nous puissions réussir. Voilà pourquoi il nous dit, vas-y, tu peux le faire, vas-y, tu peux le faire. Tu as la force. C'est lui qui nous donne la force. Verset 8, psaume 37, je saute. Je prends juste quelques versets. Laisse la colère abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Là, on peut voir donc les dessous des circonstances où nous pourrons nous-mêmes nous détourner de Dieu. Non, laissez la colère de côté. Abandonnez la fureur. Ne vous irritez pas, ce serait mal faire. Ayez le cœur du Christ. Comme le Christ a agi à l'égard de ses adversaires, il a dit à Dieu le Père, pardonne-leur leur offense, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'attitude. L'attitude de la réussir. Verset 9, psaume 37. Car les méchants seront retranchés. Autrement dit, lorsque le moment du jugement arrivera, les méchants seront perdants. Ils ne seront pas au bout, vers la victoire. Ils ne pourront pas voir la victoire. Ils n'auront pas la médaille d'or, même pas périssable. Ils seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel, vous, moi, autrement dit, quoi qu'il arrive, si nous avons les yeux sur le Christ, si nous faisons ce qu'il nous dit de faire, nous aurons toujours de la garantie absolue de réussir. Car l'Éternel possédera le pays que Dieu nous donnera, le pays que le Christ nous a promis, le pays où nous aurons la victoire finale. Rappelez-vous cette histoire que je vous ai racontée de la petite athlète qui était presque tout au bout, mais pas encore tout à fait au bout. Elle devait faire l'effort ultime. Elle a entendu, et j'entends encore les paroles de son entraîneur, « Vas-y, petit, vas-y dans tout ce que tu as. Vas-y de toute ta force, sur le moment ou jamais. Si nous autres chrétiens, nous avons cette détermination d'arriver jusqu'au bout, de lutter de toute notre force et de dire à nous-mêmes, vas-y, tu peux le faire, c'est le moment ou jamais. C'est alors que nous pourrons avoir cette certitude d'obtenir un jour la médaille d'or impérissable.